Le Premier ministre, autoritaire, volontaire, en appel au sens des responsabilités de chacun. Il balaie d'un revers de main les propositions du MEDEF sur le temps de travail et sa rémunération. Vous a-t-il convaincu? On pose la question à nos quatre invités ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Merci d'être là. Nathalie Arthaud.
Écoutez, moi, je n'en attendais rien, donc je ne suis pas déçue, évidemment. Et non, moi, ce que je... Même les annonces dont vous parliez, la revalorisation du minimum vieillesse, 800 euros. Rendez-vous compte. Comment peut-on vivre avec 800 euros aujourd'hui?
Au lieu de 790.
Oui. Bon, mais enfin, avec 800 euros, comment fait-on? Alors, en réalité, voilà, on va au restaurant du cœur, on se chauffe pour atteindre 17, 18 degrés l'hiver. Voilà, c'est ça qui se passe. Et c'est ça qu'on annonce comme une mesure de gauche? Non, vraiment. Non, la réalité, c'est que d'ailleurs, Valls ne l'a pas caché. C'est pas un tournant, il n'y a pas de zigzag. Il est fier d'être au service du patronat, d'être dévoué. Donc, il a expliqué en passant que les seuils sociaux... Le patronat allait être donc satisfait de ses demandes. Il a expliqué que ça allait être pareil sur le travail du dimanche. Enfin voilà. Donc on a un gouvernement qui fait une politique pro-patronale, anti-ouvrière. Et on sait à quoi s'en tenir maintenant, parce que ce n'est pas non plus un tournant. Valls, c'était la continuité en fait du gouvernement Ayrault. Et moi je pense que voilà, les travailleurs doivent s'apprêter à riposter dans la rue, parce qu'on voit que ce n'est pas la fronde parlementaire qui va changer quoi que ce soit. Non, écoutez-moi, d'abord, la hotte du Père Noël, elle est remplie pour le patronat. Vous dites, oui, j'aimerais arriver avec de l'argent à distribuer, etc. Mais c'est ce que fait le gouvernement. 41 milliards, enfin, c'est quand même, c'est inédit.
Mais pour qui,
Pour le patronat. Et ce sont des cadeaux. Et je le dis et je le redis, ce sont des cadeaux pour le patronat. Parce que cet argent-là...
Parce que si vous voulez dire que le patronat, c'est...
Vous savez, le crédit d'impôt recherche, on pourrait en faire la liste. On pourrait faire la liste, y compris de Carrefour, de Muliez, des banques qui touchent du crédit d'impôt compétitivité, alors qu'ils sont complètement à l'abri de la concurrence internationale et qui n'ont pas de problème de compétitivité. Donc on pourrait faire la liste, effectivement, de tout cet argent qui est versé à fond perdu, effectivement, parce que le patronat l'a demandé. Et cet argent qui ne débouche sur aucun emploi depuis que vous avez commencé cette politique, et ça, elle a démarré dès le lendemain de l'élection de Hollande. Le résultat, on peut déjà le mesurer, mais en réalité, ça fait déjà des années, mais même la droite l'a fait, subventionner le patronat pour dire que ça va l'aider à embaucher. Et en réalité, l'argent, la courbe, ne fait que monter. Voilà.
Alors, on va laisser répondre
Olivier Faure. L'argent qui va vers le patronat, et la courbe du chômage ne fait que monter aussi, donc il n'y a pas de résultat là-dessus.
Olivier Faure.
Et quand même, une chose, je suis désolée, mais les grandes avancées sociales, le progrès social, les congés payés, ça a été les luttes des travailleurs. Ça a toujours été arraché par les travailleurs, par les militants, justement, et par les travailleurs qui se sont battus. Ça n'a jamais été donné d'en haut par les gouvernements.
Olivier Faure, cette...
Non mais moi, je suis pas d'accord avec ce postulat là, général et qui est partagé par finalement vous trois, qui consiste à dire que puisqu'il n'y a pas de croissance, puisqu'il y a des déficits, puisqu'il y a la dette, eh bien, il faut que les travailleurs se serrent la ceinture et il faut forcément ouvrir les vannes aux entreprises. Alors, de façon caricaturale, vous dites c'est le vieux débat, etc. Mais c'est pas du tout ça. C'est que la réalité, c'est quoi? C'est que la croissance... Des dividendes, aïe, les revenus, les fortunes, les grandes fortunes, elles n'ont pas arrêté de monter, de grandir malgré la crise. Le patronat a expliqué
Nous, on a rétabli
l'impôt
sur la fortune.
Laissez-moi terminer, s'il vous plaît.
On l'a rétabli, il rapporte 5 milliards d'euros.
Le patronat a expliqué qu'il avait rétabli ses marges. Enfin, écoutez, les difficultés, moi, je ne suis pas d'accord pour dire que ce sont les mêmes du côté du patronat et les mêmes du côté des travailleurs. Ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que cette crise, elle est prise de plein fouet.
Vous avez
par
vu les faillites, le nombre de faillites d'entreprises.
Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, je ne vous coupe pas. C'est les travailleurs qui l'ont pris de plein fouet. Pourquoi? Parce que, y compris quand il y a une faillite, y compris quand il y a une fermeture d'usine, qui finalement en est la première victime? Ce sont les travailleurs, parce qu'eux, ils se retrouvent sans rien.
Justement.
Et ils n'ont pas de matelas. Sauf que ceux qui ont investi, les capitalistes qui ferment l'entreprise, prenez Peugeot, Aulnay par exemple, ils ne sont pas sur la paille, la famille Peugeot, ce sont les travailleurs. Et partout, dans toutes les entreprises, on fait ce chantage-là, de dire, c'est la compétitivité, il faut faire plus d'efforts, travailler plus, être payé moins, accepter la flexibilité, etc., etc. Alors voilà, on s'installe comme ça dans une situation où on oblige les travailleurs à reculer toujours et encore. Et le gouvernement gouvernement, eh bien, il va dans ce sens-là. Il aide le patronat à finalement gagner du terrain. Donc la réalité, c'est celle-là. Et dans cette situation-là, eh bien, moi, je pense que oui, bien sûr, les travailleurs, ils ont à se battre parce qu'ils doivent arracher, eh bien, de quoi survivre, tout simplement, de quoi avoir un emploi, un salaire digne. Voilà. Alors après, vous pouvez spéculer sur le retour ou pas de la croissance, mais moi, je suis pas d'accord. Là, il y a urgence. Il faut pas que les travailleurs se laissent finalement, qu'ils acceptent cette diversion-là.
Est-ce que vous pensez que la France a les moyens de contraindre l'Allemagne, que Manuel Valls a les moyens de contraindre Angela Merkel à réfléchir à une réorientation de la politique européenne pour dégager justement de la croissance?
Moi, je pense que Hollande et ce gouvernement Valls, il aurait les moyens de mettre un certain nombre de contraintes sur le patronat. Pourquoi? Parce qu'il donne 41 milliards. Vous dites, oh, mais après, c'est le dialogue social. Eh bien, pourquoi on ne les assort pas de contraintes? Pourquoi on ne met pas des conditions? Le gouvernement, écoutez, le ministre Rebsamen a été prêt à aller contrôler les chômeurs. Et alors, on ne va pas contrôler les patrons? Alors ça, on ne les contrôle pas, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Il aurait les moyens. Alors avant de parler d'aller discuter, de contraindre Merkel à quoi que ce soit, qu'ils contraignent ceux qu'ils ont, à qui ils donnent de l'argent.
Cette question
Valls, vous avez entendu, il a dit c'est le retour de l'État, la puissance de l'État. Et bien alors si l'État est puissant, alors, je pense qu'il doit pouvoir mettre un certain nombre de conditions.
Cette question.
Au moins imposer qu'il n'y ait plus de suppression d'emplois. On essaie de...
Nathalie Arthaud, il y a des raisons de se réjouir quand même d'être français, rassurez-moi.
Écoutez, si on est la cinquième puissance du monde, ça veut dire que la France est un pays riche. Mmh. Alors comment expliquer qu'il y ait 2 millions d'enfants qui aient du mal à avoir 2 repas par jour en France? Comment expliquer qu'on dise aux retraités, bah, écoutez, voyez, on fait beaucoup pour vous, on monte votre minimum vieillesse à 800 euros. Comment expliquer qu'il y a 5 millions de chômeurs qu'on condamne donc à la misère? Parce que c'est ça que ça veut dire aujourd'hui, se retrouver au chômage. Comment expliquer tout ça alors? Moi, c'est toujours pareil. Il y a un discours d'autosatisfaction. Puis alors, l'idée qu'il faut qu'on se remette au travail, ça, je l'entends aussi beaucoup. Alors, ça vient souvent de la droite, je dois le dire. Il faut que la France se remette au travail. Mais franchement, là, ça me révolte. Ça me révolte parce que les ouvriers de Poissy ou de Toyota ou les caissières des supermarchés ou les ouvriers du bâtiment, ils sont au travail. Ils y passent leur vie et ils y passent souvent leur santé aussi au travail. Tout ça pour... même pas arriver à boucler les fins de mois. Donc ceux qui sont au travail, je peux vous dire qu'ils sont pressés comme des citrons. Il n'y a pas de problème. Et tout ça, pour quel résultat Et il faut se dire, oh, on est fiers parce qu'on est la cinquième puissance. Mais ça profite à qui, ça? Dites-moi. À qui ça profite-t-il?
Franchement, enfin, moi, je trouve que vous cédez beaucoup à la facilité. Parce que, si vous venez à chaque fois en disant tout n'est pas formidable, tout le monde peut le faire. Et tout le monde peut créer de l'empathie sur les victimes du système,
etc. Je dis au contraire qu'il y a de l'argent et qu'il y a de quoi faire autrement et autre chose.
On est dans un pays, et je m'en honore pour ma part, qui consacre plus de la moitié de sa richesse produite à mettre en place un système qui est un système parmi les plus protecteurs au monde. Est-ce que vous connaissez, quel est le pays dans lequel vous voudriez vivre aujourd'hui, à part la France? Quel est ce pays mythique, rêvé, qui serait votre modèle? Parce que j'aimerais comprendre, savoir où est-ce qu'on vit mieux qu'en France. Est-ce que vous voulez vivre aux États-Unis? Est-ce que vous voulez vivre au Japon? Est-ce que vous voulez vivre en Chine? Est-ce que vous voulez vivre à Cuba? Est-ce que vous voulez vivre... Quel est votre pays rêvé? Parce que là aussi, il y a un problème de dénigrement permanent. On peut toujours dire qu'effectivement, on pourrait faire plus d'avantages, etc. Mais
c'est pas ça le problème.
C'est trop facile.
C'est pas dans quel pays vivre. C'est simplement en train de vous dire.
Quand
on est ouvrier en France, quand on est chômeur en France, ou quand on fait partie de cette grande bourgeoisie française qui prend l'avion le week-end pour aller voir une exposition à New York, par exemple, ou qui peut claquer en une soirée, en un repas, ce que 3 SMIC, par exemple, ben, c'est pas la même chose. Sauf que justement, il y a les moyens de le changer, ça. Il y a les moyens de le combattre. Il y a les moyens, justement, que les travailleurs, que les exploités, ils aient droit à une vie digne aussi.
Nathalie Arthaud, 90% des Français gagnent moins de 3 000 euros par mois et n'ont pas les moyens de passer un week-end.
J'ai bien parlé effectivement de la bourgeoisie. Vous savez aussi que quelques dizaines de très grandes fortunes possèdent la moitié de ce que possède l'humanité. 67 grandes fortunes. Alors, voyez,
Dans le monde.
Et la France, elle est le reflet à son niveau, à son grand niveau, je vais dire. Voilà. Mais elle est le reflet aussi de ça, d'un système aberrant. Un système où il y a effectivement beaucoup de richesses, beaucoup de possibilités, beaucoup de potentialités, des techniques fantastiques, et où finalement on condamne les gens et on leur met dans la tête qu'il va falloir qu'ils acceptent de vivre moins bien que leurs parents ou que leurs grands-parents.